Amen. Merci Seigneur. Bonjour bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Tiens Stéphane, voilà. Merci au Seigneur qui nous a donné ce temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur bénisse nos frères et nos sœurs et qui nous entoure et qui nous accompagne dans cette adoration et dans cette louange à Dieu. J'aimerais continuer avec vous ce matin dans la même lancée que le message du dimanche dernier, n'est-ce pas? Que le dimanche dernier, c'était voilà, le Seigneur Jésus qui donnait cette parole claire à ses disciples. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, porter sa croix et venir à la suite du Seigneur. Et nous avons expliquer que ce renoncement, c'est un changement dans nos cœurs, un changement d'orientation, un changement de vision que Dieu opère en nous et qui nous donne désormais de nous positionner pour le Seigneur. Et ce changement, Dieu veut le voir dans des situations précises où nous avons à décider, où nous avons à choisir, où nous avons à nous positionner. Et c'est là que parfois la croix prend tout son sens, parce qu'elle fait mal, parce que c'est des décisions qui ne sont pas simples, mais que nous devons assumer avec l'assurance que Christ est avec nous. Et justement, il nous faut veiller, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui le disait toujours dans l'évangile de Marc, ce que nous avons vu dimanche dernier, c'était dans l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Chapitre 8. Versets 34 à 37, et là on a cette parole du Seigneur, dans l'évangile de Marc toujours, chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et continuant en disant, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et l'apôtre Paul va nous redire les choses avec la force que Dieu lui a donnée, reprendre cet engagement chrétien et nous le dit d'une autre façon, mais toujours dans la même pensée du Seigneur Jésus. Et je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Donc là, ça sera en deux parties, après il y a la suite dans la diapo d'après. Versets 10 jusqu'au verset 12, sur celle-là, et la diapo d'après donnera la suite. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. L'apôtre Paul, dans cet enseignement, cette épître qu'il écrit aux Éphésiens, il me semble qu'il reprend cette thématique du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Et là, après avoir donné un enseignement pendant 5 chapitres, il conclut quelque part en disant, après tout ce que je vous ai dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais comment vous allez vous fortifier? Comment cela va se matérialiser? Comment cela va se réaliser? Comment cela va être concret? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. on est bien d'accord que les armes dont il parle ici, ce ne sont pas des armes physiques. Et nous le verrons tout à l'heure. C'est une expression, n'est-ce pas? Il prend une image qui est bien connue. Lorsqu'il faut défendre une patrie, défendre une nation, dans un monde de pécheurs que nous sommes, dans le monde de Dieu avant la chute, il n'y avait pas cette question de guerre, n'est-ce pas? Il n'y avait pas cette question d'armes, parce que c'était un monde de paix. Mais le péché, et on l'a vu tout de suite, après la chute, première génération, Caïn et Abel. Fratricide, un frère tue son frère. Dès la première génération, après le péché d'Adam et Ève, un frère tue son frère. Les guerres, les conflits sont une conséquence directe du péché qui est rentré dans le monde. Et Jésus prend acte que malheureusement le monde est comme ça. Et quelquefois, les images que le Seigneur prend, c'est des images qui peuvent nous parler. Et donc là, si l'apôtre Paul prend l'image des armes, c'est parce que malheureusement, nous sommes dans un monde déjà pécheur. Et que quelquefois, pour la justice, il faut aussi protéger les populations. Et Dieu l'a fait pendant le pèlerinage du peuple d'Israël. Il a dû protéger le peuple. Josué était un combattant qui a dû combattre pour protéger le peuple d'Israël. Donc la notion d'arme ici est une notion que nous prenons pour donner une image que nous ne verrons pas dans le ciel de Dieu, n'est-ce pas? Car le prophète Ésaïe l'a dit, dans ce monde de Dieu, il n'y aura plus de guerre. Il a cette image forte, il dit, les armes, le glaive sera transformé en quoi? En râteau, en outil pour cultiver. Mais pour l'instant, nous sommes encore ici. Et ces images sont là pour nous rappeler l'état du péché, mais aussi l'état de cette opposition que le croyant va vivre dans sa marche chrétienne, une fois qu'il a décidé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'image de la chair et du sang ici font référence à notre humanité. Dans cette lutte contre le péché, contre l'opposition de l'ennemi, ce n'est pas d'abord contre une personne. Il situe très bien que les âmes dont il parle ici, ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui, où certains, au nom de Dieu, prennent des âmes pour tuer d'autres hommes. L'apôtre Paul dit non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de tuer d'autres personnes. Il ne s'agit pas d'abord d'aller contre quelqu'un. Ce qu'il nous présente ici, c'est que dans la tentation qui sera la nôtre, dans les sollicitations du monde, dans ce qu'il a de contraire à Dieu, dans la façon dont certaines personnes pourront nous parler ou voudront nous influencer ou voudront nous proposer des choses, notre premier réflexe, ce n'est pas contre ces personnes-là. Ce combat n'est pas un combat contre un ennemi humain, ni contre notre propre nature corrompue, parce que de toutes les façons, nous sommes aussi de chair et de sang, n'est-ce pas? Il semble que dans le passé, dans certaines religions chrétiennes, justement parce que ce verset n'était pas bien compris ou parce qu'on l'avait peut-être extrapolé, on faisait ce qu'on appelait les mortifications. On mortifiait son corps. On appelait ça le rite de la flagellation. Ils se flagellaient eux-mêmes. Donc avec des fouets, voilà, comme si en se flagellant, le corps allait prendre moins d'emprise sur leur positionnement dans le monde. Ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Non. Ce n'est pas contre la nature humaine. Ce n'est pas contre des êtres semblables que nous avons à lutter. Si c'était le cas, notre lutte serait peut-être déjà gagnée, n'est-ce pas? Mais on sait qu'on ne gagne jamais et que les guerres, quand elles commencent, elles ne s'arrêtent pas, malheureusement. Alors de quoi il s'agit-il? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit qu'il y a des principes, par contre, pour lesquels, desquels nous devons lutter. Hein. Et là, il établit ces principes en parlant de domination, d'autorité, de prince de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il dit et que ce combat, il faut bien comprendre ce texte, n'est pas un combat occulte d'abord, parce que souvent, ce verset, on l'a mis dans l'occultisme, comme si c'était d'abord un combat contre des démons, contre des principautés, contre le diable. C'est vrai que ce combat, il existe, mais ce n'est pas dans ce texte qu'il en parle. Il dit simplement que souvent, si le chrétien n'est pas ancré dans la parole de Dieu, il va croire qu'il s'agit juste de questions de moralité, juste de questions de vertu. Mais il faut que le chrétien réalise qu'au-delà des questions de moralité, de caractère, il y a aussi des principes dans le monde. Et ces principes sont mauvais. Et ces principes ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi que dans le monde matériel que nous connaissons, il y a une autre sphère, qui est une sphère spirituelle. Jésus, le texte le dit, en mourant à la croix, a vaincu le diable et ses démons. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous vous souvenez du texte de la semaine dernière? Jésus parle à Pierre, il leur explique que le Messie doit mourir. Et Pierre dit à Jésus, viens, viens voir, tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas pour ça qu'on te suit. Et Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Parce qu'au moment où cette parole sort de la bouche de Pierre, c'est une parole qui ne vient pas de Dieu. Elle vient de celui qui s'oppose au plan de Dieu. Si Jésus ne meurt pas, ben il n'a pas de raison d'être venu au monde. Donc cette pensée que Pierre a libérée, en fait, elle ne venait pas de Pierre. Et que parfois, notre monde a des principes qu'il croit venir de lui-même, mais qui ne vient pas de lui. Qui vient de celui qui s'oppose à Dieu, à l'ennemi de Dieu. Aux autorités, aux principautés, aux dominations, aux autorités célestes. Et toutes ces choses, il faut que le chrétien soit averti sans avoir peur. Ce combat est un combat réel. Le chrétien doit en être conscient. C'est pour cela que j'ai commencé en nous invitant à porter notre croix, à nous positionner pour le Seigneur. Parce que c'est ce positionnement, nous allons le voir par la suite, qui nous donne aussi cette victoire. Pourquoi ce combat il est dû? Parce que justement, l'apôtre Pierre va le redire. Tu peux mettre la diapo d'après. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc il prend cette image pour dire que le croyant, il peut ne pas être conscient de tout le potentiel, de tout le privilège et tout le trésor qu'il représente pour Dieu. Mais l'ennemi de la foi le sait. Le diable, l'accusateur des enfants de Dieu, il le sait. Et que donc, il va, au travers des situations, des sollicitations, des tentations, il va essayer autant qu'il le peut de faire tutuber, de faire chuter, de faire quitter le chemin à l'enfant de Dieu. Et il prend une image assez forte. Qui est du monde dans le règne animal. Il y a beaucoup de documentaires qui peuvent aussi nous être utiles à comprendre ces versets-là. Hein? Et quand on nous présente comment ces prédateurs que sont les lions et les autres, comment ils attaquent leur proie, c'est instructeur. Et quand tu relis ce verset, tu le comprends. Ces prédateurs sont à l'affût. Ils se camouflent, ils avancent tout doucement. Ils avancent de façon insidieuse pour ne pas se faire repérer par leur potentielle proie. Et au moment où ils sentent que l'attention de la proie n'est plus là, avec la rapidité que ces prédateurs ont, ils jaillissent. Ils entament cette course folle vers leur proie. Et que parfois, les spécialistes disent que ce qu'ils font, c'est d'isoler une des bêtes du troupeau. Et c'est celle-là qu'ils vont prendre. Et l'apôtre Paul a cette image. Sachez que le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Il nous épie. Il faut en être conscient. Parfois, quand on dit, oh Dieu, voilà. Non, c'est vrai. Dieu ne nous donne pas toujours de voir ces choses parce que ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Mais il nous avertit qu'elles existent et que lui, il nous protège. Par contre, nous devons être avertis. De sorte que nous ne prenions pas toujours les tensions, les pressions, les tentations comme des choses légères. Nous devons les considérer parce qu'elles sont capables de nous faire chuter, de nous amener là où Dieu ne veut pas, de nous détourner de la bonne direction que nous avons prise. Il faut être alerté, il faut être averti, il faut veiller. Il faut veiller. Vous avez bien remarqué que dans le texte de Marc 14, Jésus dit « Veillez et priez. » Hein, un frère nous l'a fait remarquer lors de la réunion des hommes. Le texte ne dit pas « Priez et veillez. » Non, le texte dit « Veillez d'abord, soyez vigilants, soyez avertis, restez sur vos gardes. » Nous savons aussi que l'ennemi, donc le diable, il est rusé. Il emploie plusieurs sortes de stratagèmes. Quand on le dit, ce n'est pas pour nous effrayer. Vous savez que tous les panneaux qu'on appelle des panneaux de danger en circulation ne sont pas là pour nous effrayer, n'est-ce pas? Sinon, on ne conduirait jamais. On serait titanisé, on resterait chez nous. Au pire, on n'aurait pas de véhicule. Mais ils sont là pour nous avertir qu'il y a des potentiels dangers, n'est-ce pas? Pour que dans la circulation, nous soyons avertis et que nous ayons les bons réflexes lorsque nous les voyons. De plus, on dit que les panneaux de danger sont placés à distance du danger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la distance entre le panneau et le danger a été calculée de sorte que le conducteur ait le temps de réagir correctement. C'est des panneaux toujours qui sont des panneaux avancés. On les appelle des panneaux avancés. Ils ne sont pas là où il y a le danger. Ils sont bien avant le danger. C'est pareil ce que Dieu fait. Il nous avertit, pas pour nous faire peur, mais pour nous donner de bien nous conduire et de bien nous diriger, n'est-ce pas? Je l'aurais pu le mettre, mais c'est un panneau qui me parle toujours. Il y a un panneau de danger qui dit « Déboucher sur un quai ou une berge ». Et c'est un panneau, même si tu n'as pas fait l'auto-école, si tu vois le dessin, tu comprends. C'est un panneau triangulaire, tu as une voiture, tu as un quai qui est en train de tomber dans de l'eau. Bon, on n'a pas besoin. Le dessin, même un enfant, tu dis « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Ah, je vois une voiture qui tombe. » Donc, si quelqu'un voit ce panneau et que quand même il emprunte le chemin, c'est qu'il a un problème. Soit il a raté l'auto-école et qu'il n'est pas du tout quelqu'un qui comprend les dessins, soit que ce matin, il avait peut-être une autre envie, qui n'est pas de conduire sa voiture, mais de la détruire et de mettre sa vie en danger. Et ces panneaux-là sont des panneaux avancés, ils sont à distance du danger. Et Dieu fait pareil. Quand il nous parle de l'ennemi de notre foi, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour que justement dans notre marche chrétienne, nous soyons avertis et que nous ayons les bons réflexes pour nous bien nous conduire. Satan s'oppose constamment à l'évangile. C'est son travail, malheureusement. Depuis qu'il est déchu, il s'oppose à l'évangile. Tout ce qui conduit l'homme à croire en Dieu, à marcher selon l'évangile, Satan ne va pas l'encourager à le faire. Il va plutôt l'encourager à s'en détourner. Il continue, et il y a plusieurs textes qui le disent, 1 Corinthiens 5, Actes 5, 3, Actes 13, 10, il continue de tenter les êtres humains. Il a même fait cela à Jésus, Luc chapitre 4, a tenté Jésus dans le désert. S'il a tenté Jésus, ce n'est pas nous qui ne va pas tenter. Il essaie toujours, en falsifiant la parole de Dieu, de nous faire douter, de nous faire renoncer, de nous faire détourner, alors que nous avions bien compris que c'est là que Dieu voulait que nous allions. Il cherche à entraver aussi l'action missionnaire. Et le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 4, il dit que même quand la parole de Dieu est semée, il vient pour arracher la bonne semence. Ça veut dire qu'il crée des occasions pour que quelqu'un qui entend l'évangile ne puisse pas l'appliquer. C'est ça qu'il fait. Au travers des situations, au travers des événements, au travers des occasions, il peut aussi nous détourner d'une bonne compréhension que nous avions eue de l'Écriture. Il sème la mauvaise herbe, Matthieu chapitre 13, dans le champ qu'est le monde. Ça veut dire que l'ennemi de Dieu a convaincu d'autres personnes avec une conviction assez forte. Par exemple, que Dieu n'existe pas. L'athéisme. L'athéisme, c'est le fait que des gens peuvent croire fermement avec conviction que Dieu n'existe pas. Et tout va bien, puisque même avec ça, on vit bien, n'est-ce pas? Donc, pourquoi croire en Dieu si dans une société comme la nôtre, la société française, qui est réputée pour son athéisme, tout va bien, chacun va à son travail. Tout va bien. On n'a pas de guerre civile. On n'a pas de gros soucis dans la société. Même si c'est cette dernière semaine, chaque week-end, c'est pas toujours assez vrai. Mais c'est ça l'athéiste. L'athéiste dit, mais on n'a pas besoin de Dieu. Parce que même sans lui, on s'en sort. Donc pourquoi on aurait besoin de lui? Pour faire quoi? Et puis de toutes les façons, le paradis, ça n'existe pas. C'est une conception de l'esprit. Donc pourquoi me torturer après ma mort? De toutes les façons, j'en sais rien. Et puis de l'athéisme, on a forgé ce qu'on appelle l'annihilisme. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a rien. En fait, on est des atomes. Et quand tu meurs, tu es des atomes qui explosent et tu es devenu rien, le néant. Donc, Dieu n'existe pas et après la mort, on est néant. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. C'est une pensée qui vient de l'ennemi. Il sème la mauvaise herbe. Il sème les mauvaises convictions dans le monde pour détourner les hommes de la voie de Dieu. C'est pour ça que l'évangéliste Jean, dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il va dire, celui qui s'adonne au péché appartient au diable. C'est une affirmation très forte de Jean, mais il dit simplement que nous étions sans Dieu et que nous faisions tout ce que la société dit en bien pour Dieu, mais aussi en mal contre Dieu. Lorsque nous vivions dans ces choses, bah, nous étions bien en accord avec le diable, parce que c'est ce qu'il veut. Lui, tant qu'on fait ça, il n'a pas de problème. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez bien qu'il s'est opposé à Jésus. C'est un être qui est un pur esprit et qui existe. Nous n'avons pas besoin de savoir quelle forme il a, peu importe. Jésus a dit, il a confronté le diable, il a été en présence de l'ennemi, donc cet esprit méchant, il existe. Par contre, et c'est ce que nous dit le Nouveau Testament affirme en même temps que cet ennemi, il n'a pas de pouvoir sur le chrétien. Il n'a pas d'autorité sur le chrétien. Il va le tenter, il va essayer de le faire chuter, mais il n'a pas d'emprise sur le chrétien. Et c'est ça notre victoire en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas peur. Même si on ne sait pas, même si Dieu n'a pas ouvert notre esprit pour qu'on rentre dans ce monde spirituel, on n'a pas peur. Si on est rassuré qu'on est dans le Seigneur. Donc il faut se rassurer que tu as accepté Christ dans ta vie et qu'il vit en toi. Si ça, cette certitude-là, n'aie pas peur. Romains 16, verset 20 dit, le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Il a déjà fait, mais il mettra le bouquet final. Satan et sa compagnie, leur pouvoir a été rendu inefficace contre les croyants qui se confient en la réalité de leur nouvelle identité en Christ avec tout ce que cela implique, n'est-ce pas? Et nous le voyons dans des textes comme Colossiens chapitre 2 verset 6 à 24, dans 1 Pierre 5 verset 10 à 11, dans 1 Thessaloniciens 3 à 3, où ces textes affirment clairement que l'ennemi de la foi n'a aucun pouvoir sur les chrétiens parce que Christ a remporté la victoire. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Où est-ce que tu brandissais pour faire peur aux enfants de Dieu? Christ t'a vaincu. Il est descendu dans le séjour des morts. Il est ressorti victorieux. Il a la victoire. La mort a été vaincue, elle a été engloutie, et le croyant qui est ressuscité en Christ a la vie éternelle, dès à présent, et lorsqu'il partira auprès de son Père. La victoire de Christ nous est remportée par là. Amen. Le Nouveau Testament affirme clairement que même si cet être existe, que même s'il a des pouvoirs et qu'il agit dans le monde pour détourner les gens de Dieu, pour les empêcher de croire en Dieu, pour pousser les chrétiens à les tenter, à les obliger à faire ce que Dieu ne veut pas, cet être, il a été vaincu par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a livré publiquement au spectacle, il a triomphé de l'ennemi. Et que désormais, cet ennemi, il n'a aucun pouvoir sur les chrétiens. Il peut encore continuer de chercher à le tenter, à l'attirer, mais désormais, le chrétien a la force qu'il faut pour lui résister. Même pour discerner aussi ses embrouilles. Parce que notre intelligence, Romains 12, 1 à 2, nous l'avons vu, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour que vous sachiez discerner la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous avons maintenant en Christ ce renouvellement, ce discernement. Nous avons, par la grâce de Dieu, cette intelligence renouvelée qui nous permet justement de demeurer dans cette victoire. Et les armes que Dieu nous donne, la diapo d'après s'il te plaît, les armes spirituelles, et vous voyez bien qu'il s'agit plus de vertu, de caractère, de changement, de comportement, de positionnement éthique. Et le premier qu'il sort, c'est « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Vous savez qu'à plusieurs reprises, la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il dit « Le diable est le père du mensonge ». Donc, la première des choses que le chrétien doit continuer à cultiver, c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus a pu dire, quand l'ennemi s'est présenté, il dit, il vient, mais il n'a rien à moi. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Lui, c'est le père du mensonge. Il ne peut rien me réclamer. Parce que moi, Christ, je suis la vérité. Et nous, chrétiens, nous sommes invités à demeurer. Premièrement, la vérité dont on parle, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est celle-là qui est la vérité. Notre première arme dans ce positionnement chrétien, c'est la vérité de la parole de Dieu. Quel est ton rapport à cette parole? Est-elle la vérité pour toi? Est-elle celle que tu consultes pour te conduire, pour te guider, pour t'éclairer? C'est elle la vérité. Éclairé par cette parole, éclairé par la vérité de cette parole, nous devons par la suite être aussi des gens de vérité parce que nous sommes éclairés par cette parole. Le chrétien est invité à marcher dans la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Cette justice, c'est celle que Dieu nous donne déjà, n'est-ce pas? Ce n'est pas nos œuvres qui nous justifient, mais c'est Christ qui, par son œuvre, nous a rendus justes. Et comme quelqu'un a prié ce matin, l'ennemi, il aime nous culpabiliser. Oh, vu la façon dont tu marches, tu n'es pas vraiment une chrétienne. Oh là là, ma soeur, franchement, on a vu mieux chrétien que toi. Hein? Oh mon frère, tu crois que tu es chrétien avec toutes ces choses que tu penses, que tu fais, tu n'es pas vraiment un chrétien. Et il y a cette voix parfois qui est là pour nous culpabiliser. Si c'était nos œuvres qui nous sauvaient, on ne serait pas là. Si c'était les œuvres que j'ai faites qui faisaient de moi un chrétien, franchement, je ne sais pas si je serais devant vous. Non, ce n'est pas celle-là. Donc l'ennemi joue dessus souvent. Il faut justement que cette parole que nous avons connue et qui nous a sauvés, qu'elle puisse être affirmée. Oui, je ne suis pas peut-être encore parfaite, mais c'est Christ qui a remporté le prix pour moi. Je suis juste au-dessus de Dieu, pas à cause d'abord de mes œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Christ me donnera la force de marcher comme il veut. Pour l'instant, je tutue, c'est vrai. Mais je ne resterai pas dans cette position-là. Mais Christ est ma justice. C'est lui qui me rend juste devant Dieu. Et du reste, il me donne encore l'opportunité, quand je tombe, de confesser mes péchés. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner à cause de Jésus-Christ. Et parfois, l'ennemi va dire, « Ouais, mais tu sais ce que tu as fait là, Dieu ne peut pas pardonner. » C'est faux. Dieu a besoin que tu sois sincère dans ta confession. Et que s'il y a des choses à réparer, tu puisses les réparer. Et lui, il te restaure. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. La chaussure, n'est-ce pas, c'est celle qui nous préserve et qui nous permet de marcher dans tous les endroits. Donc ce qu'il dit là, c'est de dire, quand on est chrétien, pour marcher dans ce monde, en toute sérénité, il faut que ce soit l'évangile qui nous porte. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui nous porte. Il faut que nos choix, nos décisions, nos actions soient portées par l'évangile de paix. Et qu'en plus, nous soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Que nous soyons des porteurs de la bonne nouvelle. Et être porteur de la bonne nouvelle, c'est pas d'abord ce que nous proclamons. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Donc finalement, ce texte dit, l'une de tes armes, c'est de vivre comme un chrétien. Vis comme un chrétien. Vis comme une chrétienne. Continue de progresser dans cette vie de chrétien et de chrétienne. Que ton caractère, que ton comportement, que tes décisions continuent d'être trempées dans la parole de Dieu. Progresse dans ces choses. Progresse dans ces choses. Progresse dans ces choses. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La foi est une ferme assurance des choses qui nous sont dites dans cette parole. Parce que Jésus dit la vérité, ce qui est ici est la vérité. Et si nous le faisons, nous marchons par la foi. C'est ça qui nous protège. Comme on dit que le chrétien ne marche pas par la vue, mais par la foi, ça veut dire qu'il marche par les convictions que lui donne la parole de Dieu. Parce que cette parole a été éprouvée et elle est vraie. Et tout ce qu'elle dit est juste. Et tout ce qu'elle te dit de faire, tu as raison de le faire. Et c'est ça qui est ton bouclier. Une ferme assurance de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a promis que nous ne voyons pas, nous avons l'assurance qu'il le fera. Et que même si je prends une décision qui m'est difficile, parce que l'autre était plus facile, mais à cause de ma foi chrétienne, j'ai pris le contraire. J'ai l'assurance que Dieu me portera. Parce que sa parole le dit aussi. Prenez aussi le casque du salut. Donc vous savez, le casque, c'est ce qu'on mettait pour protéger les soldats. Le casque du salut, c'est-à-dire que ce salut-là, ce n'est pas nous qui l'avons acquis, c'est Christ qui l'a acquis pour nous. N'est-ce pas? Je suis sauvé, pas à cause de mes œuvres, mais parce que Christ a remporté cette victoire pour moi. Et ma vie après montre que je suis sauvé. Et ma vie après montre que je suis sauvé. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit dans son épître, la foi sans les œuvres est une foi morte. Globalement, il dit, si tes œuvres, si ta foi ne produit pas quelque chose qui ressemble à la vie de Jésus, c'est pas une vraie foi. Il dit, c'est pas une vraie foi. Il dit, car cette foi-là est une foi morte. Parce que la vraie foi, elle produit des fruits. Elle commence petit, mais elle en produit quand même. Elle va continuer d'en produire. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il dit, pour vous défendre dans ce combat, là, c'est la parole de Dieu. Il faut la connaître. Il faut se laisser pétrir par cette parole pour la sortir au bon moment, dans les bonnes occasions. Comme ce que le Seigneur a fait dans Luc chapitre 4. Quand Satan lui a sorti des paroles, il dit oui, mais il est aussi écrit, n'est-ce pas? Et à chaque attaque de l'ennemi, c'était une parole de Dieu, mais sortie du contexte qu'il mettait devant le Seigneur. Mais comme le Seigneur était pétri de la parole, il sortait le bon verset. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de connaître les Écritures. Parce que quelquefois, nous les connaissons, mais pas vraiment. Et dans des situations, nous n'avons pas les bons versets, les bons réflexes, les bons positionnements. Et ça peut nous faire du mal. Et ça peut faire du mal à ceux que nous aimons. Parce que cette parole en ce moment-là n'est pas la bonne. Et parce que ce n'est pas la bonne, ça a été mal dit, l'ennemi s'en sert aussi pour faire du mal ou pour détourner les gens. Alors, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Sur ce chemin, pour terminer, c'est la victoire. Pour résister, nous avons besoin de cette victoire, n'est-ce pas? Nous devons marcher dans cette crucifixion de notre chair, donc laisser délibérément ce que nous étions avant et laisser la parole de Dieu être désormais notre guide. Celle qui nous transforme, nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Toujours par la parole de Dieu. Vas-y. Pour l'Église. Si nous, en tant qu'Église, nous laissons ces vérités, ces directives, si Dieu nous pousse ensemble à marcher tous et en même temps dans la direction de la parole de Dieu, alors nous serons fortifiés et la puissance de Dieu sera manifestée. Et nos vies iront en grandissant. Et Dieu fera venir des âmes qu'il sauvera. Mais c'est ensemble, en tant qu'Église, ensemble. Nous devons veiller et prier régulièrement. Nous sommes la cible de l'ennemi en tant qu'église. Et c'est pour ça que malheureusement, nos églises sont parfois bousculées par plein de situations. Parce que l'ennemi, il sait, s'il déstabilise une église, bah c'est tout à fait son plan. Déstabiliser, comme ça, il n'y a plus d'annonce de l'évangile. Et même quand il y a l'annonce de l'évangile, ça ne pénètre pas les cœurs parce qu'on est tous embrouillés. Il n'aime pas une église en paix, l'ennemi, il faut le savoir. L'ennemi n'aime pas les églises en paix parce qu'il sait que c'est des puissances entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a une paix et Dieu fait son travail dans le cœur. Il veut toujours embrouiller les églises. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre vie. Sachons discerner. Quand l'ennemi commence à fissurer, à raconter des choses, non, je ne me laisserai pas entraîner dans ci, dans ça. Non, parce que cette église a besoin de paix pour que les âmes puisse grandir pour que Dieu fasse son travail. Je ne serai pas un agent de l'ennemi. Je ne le laisserai pas m'influencer pour faire quoi que ce soit qui entamerait la paix et la sérénité d'une église que Dieu veut ici à Créteil pour annoncer l'évangile. Il faut que nous soyons vigilants et fermes sur ces choses-là. Ensuite, et aussi si le chrétien... Parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est tellement facile. Souvent, il y a de bonnes raisons. Mais en même temps, j'ai envie de dire, malgré ça, se retirer d'une communauté chrétienne vivante, c'est se mettre en danger personnellement. Parce qu'on s'éloigne de la flamme, on s'éloigne du groupe, on s'éloigne du troupeau, on s'éloigne du peuple, on s'isole. Et quand on est isolé, bah on construit quelque chose tout seul. Et on n'est jamais sûr. On peut être convaincu que c'est ce qu'on construit tout seul qui est vrai. Mais qui est là pour te contrôler? Qui est là pour te corriger? Qui est là pour te redire? Tu es toute seule. Tu es tout seul. Alors quand on est ensemble, et moi c'est pour ça que j'apprécie quand une église est mature. Parce que là, les frères et les sœurs, on peut se parler. On peut se dire les choses. On peut s'encourager. On peut se dire, ah là, attention mon frère. Ah là, attention ma sœur. Et on est ensemble. Et ça fait une force. On ne doit pas, parce que Dieu aussi a besoin de la communauté, il a besoin de chacun, il a besoin de toi et de moi ici. S'il nous a mis ici ensemble, c'est parce qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Imaginons toujours un puzzle sans une de ses pièces. Quelquefois, les enfants ont perdu une pièce du puzzle et quand on a tout reconstruit, ils sont tristes parce que cette petite pièce n'est pas là. Et ça fait que le dessin, il est là, mais il n'est pas complet. Et l'église, c'est pareil. Si l'un d'entre nous n'est pas là, non. Si Dieu nous a mis ensemble, il a une bonne raison pour chacun et chacune. Les soldats isolés, évitons-les. Et enfin, lorsqu'en tant que communauté, c'est pas la communauté européenne, hein, c'est une erreur. Lorsque nous sommes là en tant que communauté, nous nous laissons remplir par sa plénitude, fortifier par sa puissance, nous devons espérer qu'il nous utilisera au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Comme quand nous louons le Seigneur ensemble, comme les dimanches, comme ce matin encore, cette louange à Dieu qui nous pousse tout ça. Waouh, Jésus, tu es vivant. Je vais te porter par toi. Je vais te porter par toi. Alléluia. Quand la puissance du Christ est déchaînée dans son Église, toutes les forces de Satan nous seraient fait obstacle. Nous n'avons donc pas à avoir peur du diable. Et cela pour plusieurs raisons. Parce que Christ, par sa mort à la croix, a détruit son pouvoir sur nous. Parce que la victoire de Jésus-Christ est complète, elle est totale. Par sa mort à la croix, par sa résurrection, par sa présence, par son intercession en notre faveur auprès du Père dans le ciel, Christ est notre victoire. Et enfin, le Seigneur, il nous garde, il nous protège par sa force toute puissante. Selon Éphésiens 6, 10, il nous protège. Il nous protège. Donc comptons sur sa force, mais soyons avertis que nous avons un combat, mais nous n'avons pas à paniquer, nous n'avons pas à chercher à voir ou à ne pas voir, nous avons juste à rester ce que nous sommes, des chrétiens, ensemble, dans la parole, dans la prière, être vigilants. Prions. Te bénissons, notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci parce que ta victoire est la nôtre. Mais tu nous dis aussi la vérité, tu nous rappelles que nous sommes dans un contexte où nous avons de l'opposition. Mais cette opposition, elle est vaincue. Et que nous avons besoin, nous, de nous appuyer sur ta victoire en étant sereins, en nous laissant aussi conduits par ton esprit avec du discernement. À toi la gloire, au nom de Jésus.